Bienvenue sur Mediapart. En général, quand on parle musique, c'est dans notre émission live. Mais là, exceptionnellement, je reçois deux coordinateurs d'un ouvrage inédit par son contenu et par son ampleur, le Gainsbook, 400 pages richement illustrées, qui raconte non pas la vie de Serge Gainsbourg, mais ses créations musicales, en studio notamment. Je reçois donc Sébastien Merlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur artistique, vous travaillez depuis longtemps sur la discographie de Serge Gainsbourg. Et puis, en face de vous, qui a également participé à l'ouvrage, Jérémy Spierglas.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, ancien journaliste culturel. Donc, je le disais, vous avez tous les deux collaboré à cet imposant livre qui est, comme je le disais, a une iconographie très impressionnante et des textes également très, très abondants. On va faire ensemble quelques coups de sonde dans ce travail. Mais est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter comment vous avez procédé? Parce que je peux le dire pour vous, ce qui est agréable en lisant ce livre, c'est qu'on ne retrouve pas les mille anecdotes rabâchées sur la vie de Gainsbourg. C'est un vrai récit enquêté sur Gainsbourg en studio.
Bah le projet est né d'une frustration, en fait. C'est sur le, je crois qu'il y a à peu près 140, 150 livres qui sont parus depuis 1991, l'année de sa disparition. Et il n'y en a aucun qui parle de musique en profondeur, en fait. À chaque fois, ça survole. Je dirais que la plupart des livres s'arrêtent à la porte du studio. Et nous, notre volonté, ça a été justement de commencer là où les autres s'arrêtent. C'est pas une biographie du tout. Ou si c'est une biographie, c'est une biographie de l'œuvre. Voilà, et non pas de Gainsbourg.
Jérémy, en fait, comment vous avez procédé plus concrètement? C'est-à-dire que dans le livre, on voit que vous êtes allé rencontrer des gens, vous avez mené des interviews sur plusieurs années, il me semble.
Alors en fait, il y avait des interviews qu'on avait déjà menées chacun dans son coin, voilà, ou ensemble d'ailleurs, de temps en temps. Et puis ensuite, pour le bouquin lui-même, on s'est effectivement lancé dans une série d'interviews de tout un tas de gens qui n'avaient jamais été interviewés, ou pas en profondeur, ou de manière très fragmentaire. Et puis on a bien fait parce qu'il y a de la matière, et on a bien fait aussi parce que c'est des gens qui, hélas, vieillissent, ouais, et qui commencent à disparaître.
Oui, ça fait donc 30 ans que Gainsbourg lui-même a disparu. Il y a eu l'exergue du livre qui est assez savoureux. C'est quand j'aurai cassé ma pipe, c'est Gainsbourg qui parle, on analysera tout ça et on verra que c'est très structuré. Au terme de votre enquête, est-ce que vous êtes parvenu à la même conclusion que lui?
Je crois que bon, c'est vraiment une accumulation de tout un tas de détails, en fait. On va vraiment très très loin dans les détails, mais je pense que chaque pièce de puzzle qu'on a amenée enrichit un portrait qui, avec un peu de recul, on commence à en avoir un petit peu, me paraît tout à fait saisissant, quoi. À la fois de Gainsbourg, d'une époque aussi, d'une façon de faire la musique à une époque précise.
Oui, alors c'était une autre question que j'avais, parce que il y a l'histoire de Gainsbourg en studio, et puis en creux, il y a l'histoire de l'industrie du disque, en France et en Europe. Vous insistez beaucoup sur les sauts technologiques par lesquels est passé Gainsbourg et la chanson en général. On découvre aussi des pratiques qui ont changé. Moi, qui étais assez ignorante dans le domaine, je me suis aperçu que dans les années 50-60, les concepteurs des pochettes n'étaient pas crédités. Des fois, on ne sait plus qui c'est. Les musiciens eux-mêmes, des fois, on ne sait pas qui a fait telle ou telle partie. C'est assez incroyable, finalement, avec le recul.
Ça a été la première étape de notre enquête. Ça a été justement de savoir qui faisait quoi sur les disques. Parce qu'effectivement, dans les années 60, la pratique commune, c'était au dos de la pochette d'avoir arrangement et direction d'orchestre, par exemple pour Gainsbourg, Alain Goraguer, et point. Pas d'ingénieur du son, pas de crédit musicien, rien du tout. Donc la première étape, ça a été de notamment d'interroger Goraguer, mais tout de suite de rechercher qui pouvaient être les musiciens.
Donc, de fil en aiguille, en interrogeant des musiciens, ils nous disent « Ah bah, il me semble me souvenir qu'à cette séance, il y avait tel autre, tel autre, tel autre. » Puis comme ça, en recoupant tous les emplois du temps.
Voilà, il y a un truc, on a beaucoup mené l'enquête dans les agendas des musiciens, quand ceux-ci avaient gardé leurs agendas. Il y a un autre paramètre, qui est simplement l'analyse stylistique. C'est que même si les musiciens sont au service d'une musique très écrite, dans les années 60, il y a quand même des idiotismes qui ressortent, qui les trahissent, qui trahissent leur identité, des petits détails.
Un timbre, une manière d'attaquer, ouais. Et entre eux, comme ils se connaissent très bien, enfin ils se connaissaient très bien en tout cas, ils sont capables de se reconnaître. Mais pour revenir à la précédente question sur la structure, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est très structuré. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une démarche, La démarche est structurée. Ensuite, il y a beaucoup de hasard, et c'est aussi là que c'est intéressant. Mais il a toujours une démarche très structurée, très intelligente, où il fait jamais les choses par hasard. Et c'est là que c'est structuré. Mais c'est pas tout ça, lui dit, c'est tout ça. En gros, comme si, dès 58, il savait qu'il allait faire Melody Nelson, qu'il savait qu'il allait s'intéresser au reggae. Non, évidemment pas. Mmh. Mais il y a cette rigueur, cette démarche, cette rigueur à la fois sur la musique, sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, surtout, sur le travail des textes. Je pense que dès le début, par contre, il avait déjà l'idée du talk-over, des choses comme ça. Je pense que dès le début, c'était là.
Talk-over, expliquez ce que c'est, parce que c'est la marque de fabrique. Quand même,
c'est là un peu une marque de fabrique, c'est de pas chanter, mais soit c'est un mi-chemin entre le fredonner, le parler-chanter, le parler-parler, le parler rythmé. Il y a, voilà, c'est tout un ensemble de choses avec lequel il joue avec une grande subtilité. C'est très musical, en fait, voilà. C'est parler, mais de manière musicale.
Alors, l'apport de l'ouvrage, on le sent hein, à travers vos propos, c'est que ça nous permet de rentrer dans l'œuvre de Gainsbourg, mais en se décentrant de Gainsbourg lui-même, qui est parfois une figure un peu écrasante, il faut bien le dire. Donc là, on voit aussi tous les collaborateurs. On va s'intéresser un peu aux arrangeurs, peut-être expliquer pour ceux qui connaissent vraiment pas grand-chose en musique. On dit que Gainsbourg était un bon mélodiste, mais c'était pas un arrangeur. Quelle est la différence? Comment on explique la différence simplement?
Vas-y.
Mélodiste, c'est vraiment, c'est inventer la mélodie, c'est trouver des notes qui vont bien ensemble, on va dire. Et puis ensuite, en général, quand on trouve la mélodie, on trouve plus ou moins l'harmonie qui va avec. Mais ça reste ça, ça reste une mélodie qui va faire 8 mesures, par exemple. Souvent, c'est rarement davantage, avec une série d'accords. Et le rôle de l'arrangeur, ça va être de développer cette musique pour que ça dure en gros 3 minutes. C'est ça l'enjeu. Et non seulement la développer pour que ça dure 3 minutes, mais qu'au cours de ces 3 minutes, on suive aussi la narration du texte, etc., etc. C'est là que le rôle de l'arrangeur... Alors ensuite, Igor Hager, d'ailleurs, dans le bouquin, fait très bien la distinction. Il y a orchestration et arrangement. Alors chez Igor Hager, d'ailleurs, chez la plupart des gens avec lesquels il a travaillé, c'est... Les deux sont ensemble. Enfin, c'est des gens qui ont en tout cas un talent énorme. Ils savaient très très bien s'entourer. Mais normalement, l'arrangement, donc, c'est à partir de cette petite mélodie faire une chanson entière, mais seulement au piano-voix. Et ensuite, l'orchestration, c'est mettre des timbres, mettre un orchestre, voilà, mettre différents instruments.
Alors, vous avez tous les deux cité Alain Goraguer. Mmh. On va écouter un morceau, un extrait de la chanson qui s'appelle Indifférente, avec des paroles un peu cruelles. Et la composition tout entière a été confié pour le coup à Goraga.
Dans tes yeux, je vois mes yeux, t'en as de la chance, ça te donne des lueurs d'intelligence. Qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton incohérence.
Alors, Goraguer, qui était-il justement? Parce que là, on rentre vraiment dans les années 50-60, un profil en fait de professionnel qui arrange, qui dirige un orchestre et qui se met au service de plein d'artistes différents. Et pour Gainsbourg, il l'a accompagné quand même de longues années, et notamment dans ce qu'on appelle la période jazz, c'est ça?
C'est ça. Alors en fait, Goraguer avait été, au milieu des années 50, l'accompagnateur de Boris Vian. Et il a été compositeur pour Boris Vian. Il a composé une cinquantaine de chansons.
Qu'admirait beaucoup Gainsbourg.
Voilà. Mais bizarrement, il n'y a pas de lien autre que ça. Je veux dire, c'est pas parce que Goraguer avait travaillé avec Vian que Gainsbourg l'a choisi. C'est le directeur artistique de Gainsbourg chez Philips qui a eu l'idée de les associer. Denis Bourgeois. Goraguer, donc, est pianiste. Excellent pianiste, on vient de l'entendre. Il accompagnait donc Vian sur scène. Il lui a composé des musiques pour une cinquantaine de ses chansons. Et en 57, il a en fait profité chez Philips du lancement, si je puis dire, de l'explosion de la carrière de Michel Legrand, qui jusque-là était l'orchestrateur arrangeur maison chez Philips. Et tout à coup, tout le travail que Legrand faisait est redistribué à une poignée de jeunes, très jeunes arrangeurs, dont Goraguer. Mmh. Voilà comment Goraguer a démarré sa carrière, pour ainsi dire, chez Philips. D'accord. Et il était sous contrat. Ça aussi, c'est intéressant. C'est un truc inimaginable aujourd'hui, quoi. Il était attaché à la maison de disques. Il était sous contrat chez Philips. Et de telle sorte que quand il a fait les arrangements pour les premiers disques de Jean Ferrat, il a été obligé de prendre un pseudonyme, puisque c'était dans une maison concurrente. Et donc, Milton Lewis et Alain Gorager sont une seule et même personne.
Alors, autre extrait que je voulais qu'on écoute, il vient d'un très bel album, à mon sens, qui est Gainsbourg Confidentiel, où là, ils vont assez loin dans un jazz assez exigeant. On écoute un petit morceau de L.A. E dans la.
L.A. E dans la, T.I.T.I.A. L.A. E dans la, T.I.T.I.A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans la, T-I-T-I-A.
Sur cet album, on a un guitariste qui participe aussi justement à tout l'habillage des chansons, qui est Elek Bakchik, qui a, on l'apprend dans le livre, un destin assez tragique d'ailleurs, alors qu'il était extrêmement, extrêmement brillant. Qu'est-ce qu'il apporte à ce moment-là à Gainsbourg?
Ah, il apporte en fait déjà son savoir-faire, évidemment, de guitariste. Il apporte son métier du jazz. Et en fait, Gainsbourg, qui était un grand amateur de jazz et qui écumait les clubs de jazz, l'a découvert dans un club de jazz. Et en fait, ce qu'il a voulu, c'était ça. C'était ce côté jazz radical, je sais pas, parce que c'est compliqué de dire que c'est du jazz radical, mais en tout cas c'est un jazz sans concession, c'est pas un jazz
commercial,
c'est un jazz qui est qui s'affirme en tant que tel et qui se cherche. Et lui, c'est ça qu'il cherchait. Il cherchait, c'est dans le titre, hein, confidentiel. Il cherchait une ambiance beaucoup plus intimiste, beaucoup plus nuancé, ou dans des nuances de gris. C'est l'un des disques qui est le plus dominé par la série noire. C'était une collection que Gainsbourg aimait beaucoup. Et Confidentiel est très clairement influencé par la série noire. Et je pense qu'il y a des tons de gris, des nuances de gris dans la série noire qu'on retrouve dans cette épure, finalement, de juste guitare basse. Voilà, on s'arrête là. On n'a pas besoin de plus parce que ça permet en plus de faire résonner toutes les paroles, les consonnes, les voyelles qui vraiment prennent une dimension beaucoup plus musicale encore qu'ailleurs.
Une toute petite formation qui ensuite voyage un concert et ce sera les derniers concerts de Gainsbourg avant longtemps, parce qu'après il n'y a qu'à l'aube des années 80 qui remontera sur scène. On va écouter maintenant un titre beaucoup plus connu qui est un hommage à Bardot, Inishas Bibi.
Jusque en haut des cuisses, elle est beautée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux.
Alors là, l'arrangeur s'appelle Arthur Greenslade, c'est une des premières collaborations outre-Manche, si je ne me trompe pas.
Gainsbourg commence à enregistrer à Londres la première fois en 63.
D'accord, c'est un peu
javanaise. Là, on est en 68. Et il y a eu entre-temps une autre séance en fin 65 pour Key In, Key Out et Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Donc ça arrive dans un second temps. Et j'ai choisi aussi cette chanson, pas seulement parce que, bon, elle est super, mais aussi parce qu'il y a ce fameux thème de Dvorak, ce compositeur classique qui arrive dans le refrain avec les chœurs derrière Inishas Bibi, et vous racontez dans le livre une anecdote assez amusante, c'est que Greenslade au début traite assez mal ce thème-là de Dvorak, c'est bien qu'on le reconnaît plus du tout.
Je crois qu'il est pas au moment de la séance, en fait, au moment où ils enregistrent, Greenslade n'a pas mesuré l'importance que cet emprunt mélodique avait aux yeux de Gainsbourg.
Alors pourquoi c'est important?
Bah ça, je crois que Jérémy est beaucoup plus apte que moi à en parler parce que...
Je pense qu'il y a plein de choses en fait. Déjà, le classique, c'est sa langue maternelle, c'est là d'où il vient, c'est sa formation ce sont ses parents, enfin son père surtout, qui était pianiste de formation classique, formé en Russie. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui parle à son côté un peu slave. Sa mère chantait apparemment des romances russes quand il était petit, etc. etc. Ça fait partie de tout ça, de sa manière de voir la musique, de grandir avec la musique. Il a grandi avec ça. Ensuite, je pense qu'il y a évidemment, la symphonie du Nouveau Monde est une belle symphonie. Ça, c'est aussi, il faut pas négliger ça. Je pense qu'il y a aussi, c'est de l'ordre de l'interprétation, ouais. C'est de l'ordre d'extrapolation et je voudrais pas. Mais pour moi, le fait qu'il y ait Nouveau Monde, C'est ça aussi. C'est, il ouvre, d'un coup, il ouvre son monde. Il ouvre quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une manière, un clin d'œil à l'Amérique d'Hollywood, qui est aussi, qui est le glamour d'Hollywood, qui est aussi le glamour de bébé. Et des choses comme ça. C'est, pour moi, tout un ensemble de choses. Il a déjà, dès ce moment-là, cette idée du symphonique. Du symphonique. Alors là, en l'occurrence, il n'y a que huit violons et quelques cuivres. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas un orchestre symphonique ni un orchestre de cordes comme on aura sur l'histoire de Millionaire Son. Mais il a cette idée de quelque chose de vraiment d'envergure, hein, avec du son, avec tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'inverse, lui, son parler chanté là, parce que là, en l'occurrence, on l'entend très 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 bien, et c'est presque plus du murmure. Et quand on le voit chanter, on a des documents où on le voit enregistrer ça, on le voit parler tout près du micro, et en fait, c'est un filet de voix, c'est pas grand chose à côté de la puissance des cuivres. On a
des cordes.
Et des cordes, on a quelque chose d'extrêmement subtil et délicat.
Sébastien,
à mon sens, c'est peut-être la plus importante des chansons de toute la discographie de Gainsbourg. Ouais. D'abord parce qu'elle est complètement centrale dans l'œuvre. Elle termine un chapitre et elle en ouvre un autre, en réalité. C'est un peu la fin de son aventure pop anglaise, première époque. Mmh. Et l'ouverture vers, effectivement, le rock symphonique, hein, qui va mener à Melody Nelson. C'est une chanson très importante parce que c'est la première fois que, sur toute la longueur d'une chanson, il parle. Voilà, il ne chante pas, à aucun moment sa voix est timbrée, elle est là, mais elle reste vraiment sur les mots, uniquement sur les mots. Et puis, bon, effectivement, le travail de collage musical qu'il y a derrière, parce qu'on parle de la Symphonie du Nouveau Monde, mais c'est aussi...
Il ne se contente pas de le reprendre tel quel.
Voilà, exactement. Alors déjà, les accents toniques ne sont pas du tout mis au même endroit, mais au-delà de ça, il s'inspire aussi d'un autre morceau de pop totalement contemporaine qui est sorti 6 mois plus tôt, qui est Days of Pearly Spencer de David McWilliams. Et c'est très intéressant parce que dans les images qu'on a eu la chance de voir pendant le travail de préparation des séances, Gainsbourg arrive avec une pile de 45 tours pour expliquer à l'arrangeur les teintes orchestral qu'il souhaite, et il a David McWilliams qui fait écouter à Arthur Greenslade, et tout à coup ça devient limpide, quoi. Mmh. Évidemment.
Oui, ça revient à plusieurs fois d'ailleurs. Mmh. C'est que vous rappelez que son anglais était assez sommaire et que la meilleure façon de communiquer des fois avec ses collaborateurs musicaux, c'était la musique. C'est de leur faire écouter les disques. Alors, vous avez tous les deux évoqué Melody Nelson. On va écouter un extrait de L'Hôtel Particulier, qui est un morceau central de ce premier album concept devenu légendaire.
Dans les colonnes du lit de style rococo sont des nègres portant des flambeaux entre ces esclaves nus taillés dans l'ébène qui seront les témoins muets de cette scène.
Ici, c'est Jean-Claude Vanier qui est à l'œuvre dans l'histoire de Melody Nelson. Il forme un duo avec Gainsbourg pour fabriquer l'album. Je voulais m'arrêter là-dessus, pas seulement parce que l'album est devenu, comme je le disais, quasiment légendaire, quoi, dans sa discographie, a inspiré beaucoup de monde bien au-delà des frontières françaises, mais aussi parce qu'il m'a semblé, à vous lire, que la gestation est très différente des autres. C'est-à-dire que très souvent, les récits se répètent un peu. C'est-à-dire qu'il a ses titres, peut-être, mais alors à chaque fois, c'est la veille au soir que les paroles sortent. Parfois même, les musiques arrivent très tardivement. Et là, Melody Nelson, on a l'impression que c'est 2 ans, certes entrecoupés de plein de projets, mais 2 ans entiers de gestation pour arriver à vraiment ce qui était à la hauteur de son ambition.
Ouais, en fait, Melody Nelson, c'est la rencontre de tout un tas de paramètres. Il y a eu la rencontre avec Birkin, qui a évidemment énormément nourri l'album. Il y a la rencontre avec Vanier. Dans les deux cas, d'ailleurs, c'est amusant de constater que ce sont des personnes qui sont très très jeunes, ouais, par rapport à Gainsbourg, qui vient d'avoir 40 ans. Enfin, il a eu 40 ans en 68. Et effectivement, la construction de l'album s'est étalée sur 2 ans. Donc, on peut considérer qu'au moment où il a l'idée de l'album, il a à peu près 40 ans. Et oui, évidemment, la rencontre avec Birkin nourrit le propos, et la rencontre avec Vanier, oui, Vanier a été un réel déclencheur, je pense d'abord en termes d'ambition pour Gainsbourg, et il y a eu une espèce d'envie de se surpasser aussi, pour, il le dit lui-même d'ailleurs, on a un extrait d'interview dans le livre, pour épater Jane Birkin, il y a cet aspect-là. Côté, effectivement, aller plus loin que ce que faisait John Barry, le premier mari de Jane.
Ouais, qui était compositeur de musique de film.
Ouais.
Alors, l'autre grand album concept, il y en a eu plusieurs, mais celui qui arrive quelques années après, c'est L'homme à tête de chou. Et on a ce titre incroyable de 7 minutes 36 sur la masturbation féminine, qui est Variation sur Marilou.
Lorsqu'en songes obscurs, Marilou se résorbe, que son coma l'absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, un nain, elle exhale des soupirs fébriles parfumés aux mains.
On met souvent en équivalence Histoire de Melody Nelson ou L'homme à tête de chou, en tout cas dans leur statut d'album concept, avec à chaque fois l'histoire d'une passion amoureuse, etc. Musicalement, en revanche, ça n'a pas grand-chose à voir. Comment est-ce que vous résumeriez la différence d'approche qu'il y a eu entre ces deux disques ?
Déjà, le process est absolument contraire. D'un côté, on a la forme qui nourrit le fond, c'est Melody Nelson. C'est-à-dire que, comme nous l'a très bien dit Vanier, on voit aujourd'hui Melody Nelson comme une musique à programme. C'est-à-dire, en fait, une musique qui est là pour épouser un texte qui avait été écrit auparavant. C'est absolument faux. La musique est arrivée bien avant les textes. Et alors que L'homme à tête de chou, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Melody Nelson, on pourrait dire que c'est la forme qui guide le fond. Et inversement, sur L'homme à tête de chou, c'est le fond qui domine et qui donne la teinte de la forme.
Ce qui d'ailleurs s'entend beaucoup sur la manière dont ils ont travaillé la bande-son, parce que la manière dont il a conçu la musique de... Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne. La manière dont ils ont conçu la musique de L'homme à tête de chou, c'est plus une musique de film. Avec une démarche d'illustration de ce qui se passe. C'est pour ça que, et avec non seulement une démarche d'illustration, mais d'illustration avec des signifiants musicaux déjà connus. C'est-à-dire, par exemple, tout bêtement, Ainsi parlait Zarathoustra pour l'ouverture. Ça s'ouvre exactement comme Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss pour montrer que c'est l'aube de l'homme, etc., 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 pour
installer
un climat, etc. Et pendant tout l'album, comme ça, on va avoir des citations où, pas forcément des citations textuelles, on va dire, mais parfois juste un clin d'œil, une référence, pour installer un climat, pour illustrer le climat de ce qui se passe. C'est pour ça que, là, dans Variation pour Marilou, dans les premières mesures, on a la Passionata de Beethoven, on a des mesures de la Passionata, parce que voilà, c'est la passion, enfin, il y a quelque chose de sexuel qui se passe. Mais en même temps aussi, on a, toujours dans Variation sur Marilou, on a une citation de Mozart, du Laudate Dominum de Mozart, parce que, comme depuis un moment d'ailleurs chez Gainsbourg, le sexe, l'acte sexuel a quelque chose de liturgique, de rituel.
Est-ce que vous rappelez aussi, à propos de Je t'aime moi non plus,
qui est composé quasiment comme une cantate de Bach, enfin, c'est ça, il y a une basse continue, et puis il y a l'air au-dessus, et Variation pour Marilou aussi, il y a la citation de Mozart qui est là pour rappeler cette dimension liturgique de l'acte sexuel.
Ouais, sacré.
Donc, sacré, voilà. Sacré. Et, pour lui, je crois que pour l'athée convaincu qu'était Gainsbourg, le sexe était la vraie religion, ou l'amour plutôt était la vraie religion, même s'il était de sens issu.
Alors, même s'il m'a beaucoup parlé des amours hétérosexuels, il a aussi parlé des amours homosexuels dans un titre qui s'intitule I'm the Boy et qui appartient à l'album Love on the Beat. On est en 84, il me semble.
Garçon qui a le don d'invisibilité, ombre parmi les ombres des nocturnes torrides. Je me perds dans le nombre pour atteindre sordide.
Alors là, c'est la rencontre avec Billy Rush. Là, c'est son nouveau partenaire musical. Une rencontre un peu improbable hein, qui est racontée dans le livre. Au début, il se jauge et puis Gainsbourg prend tout l'univers que lui apporte Billy Rush. Les albums, en tout cas ceux de Gainsbourg des années 80, celui-là et You're Under Arrest un peu plus tard. Parfois, on se dit c'est peut-être ceux qui ont le plus mal vieilli avec cette esthétique et ce son 80s. Et puis, en discutant là pendant l'entretien, on se disait peut-être pas tant que ça, parce que après tout, ce son des années 80, il revient un peu à la mode, il est approprié par des nouveaux artistes.
Oui, c'est complètement dans l'air du temps en fait. C'est vraiment revenu. C'est quelque chose qui remonte à Giorgio Moroder en fait. Hein. C'est pas Billy Rush qui l'a inventé hein, cette couleur orchestrale. Mais oui, à l'heure actuelle, on parlait off de Christina and the Queens qui cite régulièrement Love and the Beat comme son album de Gainsbourg préféré, c'est pas très étonnant. Voilà, effectivement, on revient aujourd'hui beaucoup à ce mode de production années 80, teinté années 80, avec une réverbération assez lourde sur la caisse claire, des synthés omniprésents, des guitares assez clinquantes. Voilà. Après, pour le morceau dont on vient d'entendre un extrait, je crois, Jérémy.
C'est assez amusant que vous ayez choisi cet extrait, parce qu'en fait, c'est en lien direct avec l'extrait précédent, avec ce qu'on disait à propos de la Mathilde du Chou. Là, en l'occurrence, le thème d'I'm the Boy, c'est en fait emprunté au Sacre du Printemps de Stravinsky. Quelques notes. En fait, c'est le thème d'ouverture du Sacre du Printemps qu'on entend au basson pendant les premières mesures du Sacre du Printemps. Le Sacre du Printemps qui en gros, il l'a entendu dès ses premières années. Son père lui a fait découvrir très très tôt. Et là, il en parle. Et c'est le Sacre du Printemps, c'est que c'est une histoire rituelle, c'est dans quelque chose un peu tribal où les jeunes de la tribu, une vingtaine de jeunes de la tribu, sont choisis pour être sacrifiés pour le printemps. Donc là, en fait, I'm the Boy, c'est ça, c'est celui qui va être sacrifié. Donc là, encore une fois, il y a un élément d'emprunter une citation, d'emprunter un signifiant musical pour exprimer quelque chose dans la musique.
Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que même avec cette couleur orchestrale qu'on vient de définir, enfin dont on vient de parler à l'instant à propos justement de Christina and the Queens ou de ce genre de choses, même avec Billy Rush qui est d'une culture américaine, il y a pas une once d'Europe dans la musique de Billy Rush. Même là-dedans, Gainsbourg amène quand même sa référence, son bagage classique, sa boîte à outils.
Une forme de syncrétisme des deux mondes qui se rencontrent. Oui.
Alors, en termes de ce qui traverse ou pas le temps, de ce qui résiste à l'épreuve du temps, on a parlé des textes, des mélodies, des arrangements, il y a aussi les thèmes, l'imaginaire. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, on est à l'heure de MeToo, hein, beaucoup d'artistes intellectuels qui appellent à renouveler les imaginaires qui ont été très marqués, évidemment, par des représentations masculines, dominatrices. Et je vous pose la question parce que c'est assez... ça interpelle le fait que deux des sommets de la discographie de Gainsbourg, Histoire de Mélodie Nelson et L'homme à tête de chou, il y en a un qui raconte le détournement d'une mineure, hein, mineure détournée de l'attraction des astres, je crois que c'est le dernier vers de Mélodie Nelson, et le deuxième, L'homme à tête de chou, on peut brutalement résumer ça à une histoire de féminicide, quoi. Et en parlant d'ailleurs avec des amis qui apprécient aussi Gainsbourg, ils disaient, mais en fait, tout d'un coup, on se dit, oula, on a un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire ou à les écouter qu'il y a quelques années, quoi. Alors bon, les textes sont là, enfin, les musiques sont là sous nos yeux depuis bien longtemps. Est-ce que ça vous a fait aussi cet effet-là pendant les années où vous avez travaillé sur le bouquin ?
Moi, j'avoue non. Non. Tout simplement parce que je lirai toujours Lolita avec autant de plaisir et je lirai... l'art est légitime à s'emparer de tous les sujets. Alors ensuite, il faut les traiter bien. Il y a des gens qui les traitent mieux que d'autres. Et parler de féminicide comme le fait Gainsbourg, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est quelque chose d'assez transcendé, finalement. On transcende le sujet. Je pense que je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet lourd. Il n'y a pas de doute. Maintenant, est-ce que l'art doit ne pas traiter les sujets lourds ? Je pense au contraire que l'art doit les traiter, doit parler de ce destin. Et quand on voit finalement Histoire de Mélodie Nelson, qui est donc très largement inspirée de Lolita, encore une fois, en fait, si on voulait tirer une morale de l'histoire, on pourrait dire que ça ne lui a rien apporté de détourner cette mineure. Ça ne lui a rien apporté parce que c'est une petite pisseuse. Finalement, intellectuellement, il n'y a rien, il n'y a pas de répondant. Et en plus, elle lui échappe et il est malheureux. Donc il y a vraiment, finalement, c'est Sébastien qui me faisait remarquer que l'histoire de Lolita, en fait, finalement, c'est pas bon. C'est plus, on se place du point de vue de Humbert Humbert, mais pour montrer combien il se trompe finalement, combien il est dans l'échec, dans la tragédie.
Gainsbourg disait ça à propos de Lolita. Il disait c'est pas Lolita qui m'intéresse dans Lolita. Lolita, et il disait ça. Il disait Lolita, c'est une petite conne. C'est Humbert Humbert qui me fascine. Et il ajoutait, et qui me fascine par sa médiocrité, je crois, enfin, je sais plus exactement. Il faut pas oublier faut pas oublier l'exergue, enfin, c'est plus qu'un exergue, l'introduction de Lolita, c'est un constat d'un psychiatre qui a suivi Humbert Humbert. Ça démarre comme ça. Et c'est un livre critique, c'est un livre à charge. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que, après, on rentre dans le cerveau, et c'est ça qui est très intéressant dans Lolita, on rentre dans le cerveau d'Humbert Humbert, mais à la base, c'est un livre à charge sur.
L'homme à tête de chevaux.
Et laissons à Gainsbourg l'alibi de la, je veux dire, c'est pas sa vie. Il l'écrit.
C'est de la fiction.
C'est son imaginaire. Voilà. Laissons-lui l'alibi de la fiction.
Ouais, là, c'est de la fiction. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que l'homme à tête de chevaux apparaît, il est vrai, plus pathétique qu'autre chose. Quoi.
De la même manière, on rentre dans le cerveau.
D'ailleurs, dans un signe psychiatrique.
Absolument. D'ailleurs, oui, enfin, c'est la ligne directrice. Enfin, Lolita et le livre, j'entends, est permanent dans la carrière de Gainsbourg. Et effectivement, on en a encore des traces dans l'homme à tête de chou. Pour répondre à votre question, il y a un autre truc qui me paraît intéressant d'évoquer, c'est que Gainsbourg, en 58-59, quand il a démarré, il a vu plusieurs de ses premières chansons être censurées à l'époque, la plupart du temps pour des raisons sexuelles, enfin, je veux dire, parce qu'il y avait des sous-entendus, voilà. 10 ans plus tard, ça choquait plus personne. On était en 68, il fait « Je t'aime moi non plus » et « Je t'aime moi non plus » sort. Bon, on fait un scandale, mais finalement, passe à la radio. Enfin, passe pas vraiment à la radio. Il est censuré aussi, mais il y a d'autres chansons, je pense à La Décadence, etc., qui passent très très bien. Et aujourd'hui, on écoute moins peut-être facilement Melody Nelson qu'au moment de sa sortie. Voilà, la roue tourne. Ce que je trouve intéressant, enfin, c'est plus que la roue tourne.
La question portait pas tellement sur la censure, hein, vous avez bien compris.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est de voir qu'une fois de plus, l'œuvre de Gainsbourg est un objet d'observation passionnant, quoi.
Aussi sur les évolutions
de la société.
Oui. Un dernier mot peut-être pour conclure ce long voyage ensemble à travers la discographie de Gainsbourg sur celui qu'on n'écoutera jamais ou sans doute jamais, qui est le dernier disque. Moi, j'ai appris en lisant le livre que le sujet apparemment c'était les révoltés du Bounty. C'était un peu un projet de faire un album autour de ça, peut-être. En tout cas, il y a des cassettes avec quelques mélodies dessus. Vous les avez entendues? Non, c'est, ça a été réservé vraiment aux intimes.
Peut-être qu'elle est là. Peut-être un jour, on verra.
Et est-ce qu'il y a un doute sur le fait qu'on entende un jour ces premières ébauches ou...
Comment être sûr? Pour l'instant, tout ce qui est archives personnelles de Gainsbourg est inaccessible. Tout ce qui est dans les maisons de disques, c'est-à-dire ce qu'il y a sur les bandes qui ont servi à produire ces disques, petit à petit, tout sort. Mais pour l'instant, tout ce qui était de l'ordre du privé, parce que là, on est dans le domaine privé, dans la mesure où Gainsbourg, ce ne sont que des ébauches. Hein, c'est juste, il s'est enregistré en train de pianoter des ébauches de mélodies. Et donc, comment savoir si un jour... D'abord, est-ce que c'est sortable? J'en suis même pas sûr.
Je me souviens avoir discuté avec Bambou, justement, de sa dernière compagne, qui me disait que sur la fin, un jour, il était un soir, en pleine nuit, il était venu la réveiller pour lui dire « Viens écouter ce que je viens de faire ». Et elle écoute, et en fait, c'est de nouveau une Chats Bibi. Donc, c'est plus ou moins une Chats Bibi, et il pense qu'il a... De la vie générale, à la fin, il avait... C'était... Donc, que ça sorte ou pas, je ne sais pas. Moi, je serais peut-être plus curieux des textes que de la musique.
Ouais.
J'avoue. Parce que je voudrais bien voir comment il revisite les révoltés du Bounty, plutôt que la musique. À mon avis, la musique n'était... même si c'était à l'état d'ébauche, ça ne devait pas être des ébauches extraordinaires. Je ne sais pas. Bon, ça, on n'en sait rien, finalement.
J'ai révolté du Bounty sur un porte-avions.
Bon, on finira sur ce point d'interrogation. En tout cas, merci, merci à vous d'être venu présenter cet imposant travail, le Gainsbourg. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous, évidemment, sur mediapart.fr et notre chaîne YouTube pour voir tous les autres entretiens de Mediapart.